Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bienvenue dans le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita, coach internationale et préparatrice mentale pour les sportifs de haut niveau. Et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente afin de vivre une vie en harmonie. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration pour vous guider vers votre magie intérieure et vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à le noter avec la note qui vous semble la plus juste. Bonne écoute. Salut Maureen, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer, comme il est de coutume ici, par te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais?
Salut Laurita, merci beaucoup pour ce moment de partage avec toi. Donc moi c'est Maureen Mellé, je suis coach en relations et en hypersensibilité, je suis thérapeute neuroquantique et je suis psycho-énergéticienne. Donc je travaille et une partie à mon compte en accompagnant en individuel, particulièrement autour des relations, apprendre à relationner, apprendre à communiquer de manière consciente, apprendre à être en lien et à accueillir ses émotions pour mieux relationner avec soi et de fait avec le monde. Et évidemment, j'accompagne aussi les couples. C'est vraiment mon dada, je dirais. C'est là où je me régale le plus, accompagner vraiment hommes comme femmes à coexister, à partager, à contribuer, à mieux s'entendre pour avoir des relations harmonieuses et ainsi que ça permette aussi aux enfants, tu vois, de grandir dans un monde, je dirais, plus coloré et plus soucieux de l'autre. Et puis, je travaille également en tant que coach en hypersensibilité dans l'école Âme Science. Voilà, donc j'accompagne en individuel et en couple. Et pour ça, je vais utiliser plusieurs outils, que ce soit la communication non violente, la PNL, l'analyse transactionnelle, la systémie, le paradigme relationnel, l'énergétique, le psychan symbolique. J'ai plein de cordes à mon arc. Voilà.
Ok, oui, effectivement, c'est assez complet. Je mettrai bien sûr toutes tes informations et tous les liens si les gens veulent se faire coacher ou s'ils ont des problèmes de couple ou pas de problème mais qu'ils ont envie de s'améliorer. Je mettrai tous tes liens en barre d'infos. Je n'ai pas pu m'empêcher de noter que tu as parlé de neurosciences quantiques et j'aimerais, si tu peux, nous expliquer la différence entre les neurosciences newtoniennes et les neurosciences quantiques pour ceux qui ne connaîtraient pas.
Ouais. Alors, évidemment, tout ce que je m'apprête à dire ici, c'est dans mon spectre de réalité, c'est ma manière de concevoir les choses influencée par mes lectures, évidemment, et par mes formations. Donc moi, ce que je mets derrière le mot neurosciences quantiques, c'est vraiment le lien. C'est-à-dire que les neurosciences, c'est la vie, c'est la science de la, les sciences de l'invisible, ce qui, à mon sens, différencie de l'ancien paradigme qui est beaucoup cartésien des neurosciences newtoniennes, c'est que la conscience, pour les neurosciences newtoniennes, se situe au niveau du cerveau, alors que en quantique, la conscience, elle est en dehors du cerveau. C'est une conscience. Il y a trois styles de conscience, on va dire, en quantique. Il y a la conscience simple, hein, tu vois, qui va vraiment mettre en lien l'individu propre avec son environnement. Il y a la conscience auto-réflexive, où on va avoir conscience de soi au-delà de l'instant, tu vois. Et il y a la conscience cosmique, où là, c'est vraiment en conscience de la vie, de l'ordre naturel des choses. Dans les neurosciences quantiques, la mémoire, elle est intemporelle. La mémoire, elle est vraiment perçue comme un espace de stockage informationnel qui va être disponible à tout moment et il n'y a vraiment pas cette notion de temps, tu vois, c'est vraiment quelque chose de dynamique qui est intelligent. On est des êtres de lien, des êtres de relation et le couple, pour moi, c'est le lien. La physique quantique, c'est le lien, tu vois. Donc, pour moi, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir associer neurosciences quantiques et couple, paradigme relationnel. Quoi te dire d'autre par rapport à ça qui me semble important, oui, c'est que ce qu'on va voir aussi au sein de l'espace couple, et ça on va le voir je pense quand je te parlerai peut-être un petit peu plus des différents cerveaux, mais c'est cette notion de en physique quantique, tu vois, il y a plusieurs cerveaux. Et il y a vraiment d'abord le cerveau reptilien, tu vois, qui est le tronc cérébral, en fait, qui est associé à de la survie, qui est une couche primitive, qui va contrôler la reproduction, les fonctions vitales, bref, la circulation, la respiration, les contractions musculaires. Et il y a le système limbique, qui lui va susciter des émotions intenses, des réflexes, les souvenirs d'enfance, les blessures, les valeurs. Toutes les croyances, tout le système de croyances, l'ego, le mental. Et pourquoi je te parle de ça ? Parce que le reptilien et le système limbique, c'est un petit peu le vieux cerveau, et il est très présent dans le couple. Très, très, très présent dans le couple. C'est lui qui va sans cesse reproduire les mêmes schémas, et donc les mêmes réalités émotionnelles et comportementales. Et ensuite, on a le néocortex, donc qui est plutôt le centre des fonctions cognitives, si tu veux, de toutes les pensées analytiques, qui va nous permettre de prendre des décisions, de planifier, d'anticiper, d'élaborer des idées. Et on a le préfrontal. Et c'est vraiment lui qu'on va aller chercher, qui lui est plutôt connecté à l'intuition, à l'inspiration, qui nous permet d'être dans ce calme, dans cette paix intérieure, de prendre des décisions face à des situations qui nous paraissent parfois complètement dingues, hein, complexes, improbables, avec beaucoup plus de sagesse. Donc ça, on le voit beaucoup dans le couple aussi. Et on verra un peu plus loin comment on peut se mettre en métaposition. Voilà un petit peu pour si je devais te parler de la différence entre les deux. Et une dernière chose qui me semble aussi importante dans cette introduction des neurosciences quantiques, en tout cas du moins comment moi j'ai envie de les présenter aujourd'hui au sein du couple. Je pense par exemple aux neurosciences d'aujourd'hui et à Vadim Zeland qui vont vraiment apporter de nouvelles techniques pour apprendre justement à activer volontairement, comme je te le disais, notre cerveau préfrontal qui va être très utile dans le couple, hein, parce que ça va vraiment nous permettre de nous mettre dans un rôle d'observateur. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure intégration des données quantiques dans les différents espaces de stockage disponibles, hein, partout autour de nous, et c'est ça qui va nous permettre de prendre des décisions dans le calme et dans la sérénité. Et pour ça, le préfrontal, de ce que j'en comprends, c'est qu'il est directement en lien avec l'âme. Tu vois, l'âme qui représente un vrai centre énergétique et qui va être très utile de nouveau dans le couple. L'âme, c'est vraiment une énergie qui va animer la matière en transmettant de la vibration à l'esprit. Donc l'esprit, c'est l'essence même de l'être. Et en fait, c'est vraiment l'âme qui va permettre à l'esprit de se déployer dans la matière. Et nous, ce dont on a besoin, ce pourquoi nous sommes ici, ce qu'on doit comprendre, guérir, transmuter, on va le faire au contact de notre âme. Et ça, c'est notre préfrontal qui va nous mettre directement en lien avec elle, dans cette position de méta-observateur, méta-position d'observateur. Et donc, on va passer par l'ego qu'on va retrouver dans le couple, qui est une fonction nécessaire, hein, à l'ouverture de conscience. Voilà, on va passer d'un ego personnalisé à la conscience divine de soi, à mon sens, un ego transcendé. Okay. Je sais pas si c'est clair.
C'est très clair. Il y a énormément d'informations et je trouve ça super riche et ça donne vraiment envie d'aller creuser davantage. D'ailleurs, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors, j'ai deux questions, mais ça va être deux questions en une. Tu sais, j'ai ouï dire que l'enfant, l'ado et l'adulte intérieur appartenaient aux trois cerveaux. En fait, ils étaient dispatchés dans les trois cerveaux. Est-ce que tu peux nous préciser lesquels sont où ? Et aussi, surtout, en quoi, justement, bah, ces cerveaux sont peut-être connectés entre eux, comment ils résonnent entre eux, et comment on peut s'assurer de travailler sur les trois pour être prêt, justement, à s'engager dans une relation et être sûr que ça fonctionne. On n'est jamais sûr, mais bon.
Ouais. Alors, il y a d'un point de vue, on retrouve un peu ces notions-là, tu vois, en analyse transactionnelle, par exemple, avec l'enfant, l'adulte, le parent. Là, moi, je me base notamment sur les travaux de Stéphane Drouet, avec ces notions des trois cerveaux. Donc, on a avant tout le cerveau de la tête, donc qui, lui, va plutôt être tourné vers une évolution et une puissance personnelle, qui, lui, va être liée à la réussite, à l'expression de soi, dans sa singularité, au pouvoir. C'est vraiment lui qui va nous permettre de nous réaliser dans le monde de la matière, grâce à l'action notamment. Et on est dans une forme d'intelligence de projection, tu vois, qui peut nous rendre indirectement hein, dépendants de nos attentes hein, face au monde extérieur. On dit que c'est le cerveau de l'adolescent. Il va recréer des hypothèses en fonction de ses expériences passées. Donc, tu sais qu'on est constamment connecté à notre mémoire holographique. On est constamment en train de recréer du passé dans le présent. Et donc, le cerveau de la tête, le cerveau de l'ado, va typiquement voir uniquement ce qui l'intéresse. Il va percevoir que ce qu'il croit...
Un ado.
Voilà, exactement. Que ce qu'il croit exister. Ensuite, on a le cerveau du ventre. Donc lui qui est composé de neurones également, et de 100 000 milliards de bactéries. Donc c'est à mon sens le plus ancien des trois cerveaux, puisque nos bactéries sont les ancêtres de nos cellules. Et donc nos pensées vont passer systématiquement au travers du spectre de nos émotions. On est des êtres profondément émotionnels. Le cerveau du ventre, il va envoyer quasi 10 fois plus d'infos qu'il en reçoit. D'accord ? Donc nos émotions, elles circulent vitesse grand V en dépassant très largement nos pensées, systématiquement. Et on ressent et on vit par le ventre, tu vois ? Sachant que, petite info, mais le cerveau entérique, il produit exactement les mêmes neurones que ceux du cerveau. Et les neurones intestinaux, ils sont issus de la même plaque neuronale embryonnaire que les neurones du cerveau. Donc tu vois, on ressent vraiment, d'un point de vue biologique, biochimique, par le ventre, quoi. Donc notre cerveau, il
est comme les papillons dans le
ventre. Exactement, exactement. Mais de toute façon, que t'aies peur, tu vas le recevoir dans le ventre. Que t'aies de l'excitation, tu le ressens dans le ventre. Que tu sois amoureux, tu le ressens dans le ventre. Tu ressens tout dans le ventre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est tout le temps là.
Carrément.
Donc notre cerveau du ventre, il va vraiment être responsable à 80% aussi de nos défenses immunitaires. Donc tu vois, c'est vraiment lui qui va faire le tri entre l'intérieur, l'extérieur. Qu'est-ce qui appartient à moi, qu'est-ce qui appartient à l'autre. Il va assurer notre intégrité. Il va distinguer, tu vois, les limites entre l'extérieur et l'intérieur. Et il est aussi associé à la survie dans la relation à l'émotion. Donc, qu'est-ce qui est associé à la survie si on imagine l'enfant, l'ado, l'adulte ? Ben, c'est l'enfant. Voilà, c'est vraiment l'intelligence d'intégration, c'est le cerveau de l'enfant. C'est vraiment celui qui va nous mettre aussi dans un rapport, entre guillemets, de dépendance au lien, puisque ça commence avec la nourriture, les nutriments à l'état fœtal, pour le nourrisson dans le ventre de sa mère. Donc il y a vraiment, au travers du cerveau du ventre, cette notion de dépendance au lien qui est réelle, hein, pour se sentir exister. Et c'est celui qu'on va le plus utiliser dans le couple, le cerveau du ventre. Et ensuite, on a le cerveau du cœur, donc c'est celui qu'on va chercher le plus à apprendre à utiliser, lui, le cerveau du cœur, pour comprendre, il va vraiment émettre nos désirs. Le cerveau de la tête, tu vois, il va chercher à les communiquer et à les transmettre, et le cerveau du ventre, il va les ressentir émotionnellement. Donc le cerveau du cœur, il va, et c'est ça qui est extraordinaire, il va toujours entrevoir différentes possibilités quantiques. C'est-à-dire qu'il ne va pas mettre une notion d'opposition dans le choix. Tu vois, il ne va pas dire c'est ça ou ça. Il va dire ok, ça peut être plein de choses simultanément. Le cerveau du cœur, c'est vraiment lui qui peut nous permettre d'admettre qu'il y a plein de perceptions même opposées qui peuvent coexister. C'est là où ça nous renvoie, tu vois, à cette notion de choix et d'intention. Et je le mettrai en lien avec l'enfance, parce que tu vois, depuis l'enfance, on est conditionné, on est éduqué, on est contraint, on est embrigadé à penser, à concevoir le monde comme nous l'enseigne la société, l'école, nos parents, les grandes enseignes publicitaires. Mais le monde, c'est un miroir. Et on a constamment le choix d'y voir ce qu'on souhaite y voir, en fait. Et c'est exactement la même chose pour le couple. Et lorsqu'on comprend qu'on a la possibilité, le choix d'entrevoir l'autre comme un allié plutôt qu'une menace, donc de faire le choix de connecter au cerveau du cœur plutôt qu'au cerveau du ventre, ben ça change vraiment toutes les règles du jeu. Et il y a une autre chose qui est très importante dans cette notion de cerveau du cœur par rapport à l'entité couple, c'est que très souvent, on se développe dans la peur, dans les peurs anticipatoires qui sont colorées de nos expériences passées. Et on a tendance à traiter les informations extérieures via cette charge énergétique qui est la peur, d'accord ? Et particulièrement au sein de l'espace couple. La peur, moi, je la vois comme un vortex qui part généralement, habituellement, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que la peur, elle va chercher à fuir, elle va chercher à combattre, elle va chercher à défendre, elle va chercher à se débarrasser des souffrances. Tu vois, on entend souvent comment se débarrasser des souffrances, comment couper les liens toxiques, comment éviter la douleur. Donc tu vois, ça part d'un ressenti intérieur qu'on cherche à emmener, tu vois, à libérer vers l'extérieur. Or, voilà, à mon sens, quand on fonctionne via la peur et qu'on est connecté à notre cerveau du ventre et donc à notre système limbique et reptilien, donc le vieux cerveau, on va épuiser notre organisme à être constamment dans cette fuite, tu vois, à déployer beaucoup d'énergie de l'intérieur vers l'extérieur, tu vois. Alors que quand on se connecte à l'intelligence du cœur, à notre cerveau du cœur, on se connecte à une force énergétique qui va circuler donc de l'extérieur vers l'intérieur dans le but de transmuter et transformer tout ce qui se présente à nous, qui peut paraître inconfortable. Tout ce que tu vas vivre, et particulièrement au sein de l'espace couple, mais dans tes relations. Tout ce que les gens peuvent te dire de désagréable, tout ce que tu peux éprouver, tout ce qu'on peut te renvoyer par effet miroir. Tu vas, avec le cœur, inverser les polarités. Tu vas ramener dans l'intérieur. Et tu vas colorer par de la conscience, par de l'amour, par de la compassion. Tu vas te brancher à des émotions, à des sentiments de haute fréquence vibratoire. Et tu vas ramener de la cohérence. Et c'est en ça que le cerveau du cœur, il est vraiment basé sur cette évolution universelle. C'est qu'il va te donner les moyens de te mettre en lien avec les autres. Il va te permettre de mettre de la lumière, de mettre de la conscience profonde, de t'ancrer dans cette dimension de partage, de co-création, d'évolution spirituelle, de développement de soi, de développer ta foi, ta sagesse intérieure, en lien avec l'intelligence de la vie, tu vois, donc vraiment l'effet papillon, chaque événement est relié à tout le monde, je suis partout, je suis en tout, je suis, l'autre c'est moi, et je suis l'autre, tu vois, donc on est dans le cerveau de l'adulte, voilà, et quand on est connecté au cerveau de l'adulte, ben on rentre dans ce champ de cohérence du cœur que j'essaye d'enseigner au travers de mes accompagnements, qui est une forme de neutralité émotionnelle au sein du couple. On va rechercher une forme d'amour, alors platonique, mais pas dans le sens platonique qui fait peur, tu vois, en sens « oh là là, mais platonique, c'est la mort, il n'y a pas de vie », non. Plus dans le sens un état de sagesse intérieure et d'éveil, tu vois, apaisé. Et on visite ensemble avec son partenaire le vide quantique. Et le vide quantique, bah, tout est possible, voilà, tout est réalisable. C'est beaucoup plus simple de faire des choix justes et éclairés dans ces zones-là. Voilà un petit peu par rapport aux trois cerveaux. J'espère que je ne suis pas trop longue, parce que tu vois...
C'est très clair, c'est très bien et super intéressant. Et généralement, j'imagine que les personnes, bon, pas toutes, mais les personnes qui viennent te voir parfois, c'est qu'elles ne comprennent pas pourquoi leur relation ne fonctionne pas. Et peut-être que, est-ce que c'est parce qu'elles ont leur enfant intérieur, leur ado intérieur qui n'est pas encore guéri ? Est-ce qu'elles peut-être négligent une partie d'elles-mêmes ? Comment ça se fait que certaines relations ne fonctionnent pas ? Alors évidemment, on va faire des généralités, hein, parce que ouais, chaque relation est unique, mais voilà, globalement.
Mmh. Oui. Alors, une des choses, à mon sens, qui fait que les relations ne vont pas forcément fonctionner, bien qu'il y en ait plein qui fonctionnent, déjà, c'est qu'il peut y avoir un manque de lien fondamental entre ces trois cerveaux. Donc comme je te disais, le cerveau du cœur va émettre nos idées, le cerveau de la tête va les communiquer, les transmettre, et le cerveau du ventre va les ressentir émotionnellement. Donc le cœur, il va vraiment mettre en lien les pensées et les émotions. C'est vraiment lui qui est le grand maître du lien, de la communication entre ces trois cerveaux. En soi, je suis persuadée que, à mon sens, hein, particulièrement dans l'espace couple, mais aussi individuellement, il n'y a pas à guérir, il y a à accueillir. Et c'est une notion complètement différente pour moi. Parce que quand on cherche absolument à guérir, on peut mettre un objectif, et ça passe par les relations, hein, absolument à solutionner un problème, un conflit, un désaccord. ça peut mettre une forme de pression, tu vois, intérieure. Et puis, c'est une forme de but à atteindre. Et on passe complètement à côté du chemin. Or, quand on est dans l'accueil, déjà, on est beaucoup plus dans l'instant. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion qui peut être difficile de ramener de la lumière sur les processus quotidiens qui vont se jouer. Donc, vraiment, cette invitation à accompagner le cerveau du ventre, donc celui de l'enfant, tu vois, qui va mettre en place des stratégies dans le couple pour être aimé et vraiment lui permettre de mettre de la conscience sur ses systèmes de survie. Accompagner le cerveau de la tête, donc de l'adolescent qui va rechercher perpétuellement l'évolution personnelle, qui va être à la conquête du pouvoir, de l'intellectualisation, pour mettre de la conscience sur l'ego, et donc le voile de l'illusion qui l'entraîne indirectement. Et puis, une difficulté parfois à ouvrir son cœur, en fait, tout simplement, et à se connecter à l'adulte pour se brancher sur la haute fréquence qui est l'amour. Et ensuite, en quantique, il y a vraiment une règle, c'est qu'on reçoit ce que l'on émet. On recrée en permanence du passé puisqu'on a une mémoire holographique et qu'on fonctionne quotidiennement, je vais péter un peu l'idée, mais avec seulement 1% de conscient actif et 99% d'inconscient, c'est pour dire, hein, d'accord. Donc le partenaire que tu vas choisir, à mon sens, ça va toujours être le plus qualifié pour te challenger, et c'est purement inconscient. Ton partenaire va toujours te demander d'ouvrir la porte que tu veux laisser fermée. Il va être en résonance avec l'histoire que tu te racontes, avec tes blessures de l'enfance, avec tes schémas intégrés depuis l'enfance avec papa et maman. Donc, la manière dont on va être en lien avec nos parents, dont on va interagir avec eux, dont on va les aimer, dont on va être aimé, ça va encoder un schéma énergétique qui va nous suivre toute notre vie. Et indirectement, qui va conditionner nous, nos comportements et nos relations. Et c'est ça qui est vraiment fondamental de comprendre dans le couple et dans les difficultés que peuvent rencontrer les couples qui mènent parfois à des séparations, c'est que certes, c'est deux personnes qui se rencontrent, mais c'est surtout deux cerveaux du ventre en mode survie qui se rencontrent, deux égos conditionnés par leurs perceptions et leurs croyances, deux inconscients en fait. Donc tu vois, ça fait beaucoup de facteurs qui peuvent très largement faire capoter le truc.
Clairement. Ok, et alors, bon bah là, vraiment, ça rentre vraiment dans tes coachings, mais comment tu fais pour que la relation fonctionne? Ok, il y a plein d'inconscients, des blessures qui résonnent les unes entre les autres, etc., et des croyances différentes. Comment tu les conseilles et comment tu t'assures de faire en sorte qu'ils se dirigent en tout cas vers le chemin de, justement, de l'amour pur et du bonheur, quoi, finalement?
Alors, il y a quelque chose qui est fondamental pour moi à rappeler, c'est que pour moi, le thérapeute ne fait pas grand-chose. Un bon thérapeute ne fait pas grand-chose. C'est con à dire, mais c'est véridique pour moi. Un bon thérapeute travaille en miroir avec l'entité couple, quel qu'il soit, on va dire, les accompagne, leur permet un espace où ils vont travailler l'un avec l'autre. Et ça, c'est vraiment fondamental de remettre l'entité couple au centre même de son pouvoir et de destituer, je dirais, le thérapeute ou professionnel ou coach ou mentor ou tout ce que tu veux, qui peut parfois prendre beaucoup d'espace ou donner le sentiment qu'il a la science infuse. Or, non, il a juste ce rôle d'accompagnant, tu vois, mais tout est déjà au sein du couple. Et ça, c'est fondamental. Toutes les ressources sont déjà au sein du couple. Ensuite, ce qui me paraît fondamental dans le fait d'accompagner les couples, en tout cas moi comment je bosse, c'est vraiment déjà cette idée de leur permettre d'accueillir leurs différences et de surtout pas les boycotter ou les rejeter. On a tendance aujourd'hui à entrevoir la différence comme un danger. Ça semble brouiller le lien et nous repousser mutuellement. C'est la lutte du pouvoir qui va s'installer au travers de la différence. Chacun va défendre ses positions, ses certitudes, son histoire, ses convictions, ses ressentis, sa personnalité. Et c'est complètement ok. Parce que la différence de l'autre va en fait indirectement nous renvoyer à l'incertitude de nos propres conditionnements. Et ça peut devenir épuisant et insupportable, voire anxiogène en fait. Tu vois, parce qu'on est constamment, l'autre en fait, il est constamment en train de te re-questionner sur ton système de croyances.
C'est épuisant.
C'est infernal. Bien sûr, c'est infernal quand c'est pas géré. C'est infernal quand c'est subi. Quand la différence, elle est mal apprivoisée, quand elle n'est pas accueillie, quand elle n'est pas gérée, ça va devenir de l'intolérance. Et pour moi, l'intolérance, c'est une des raisons majeures qui fait qu'il y a de nombreux conflits dans les couples et qui entraîne des séparations. Donc, à mon sens, accueillir la différence pour s'en servir comme évolution respective, c'est vraiment fondamental. Partir du principe qu'on va se choisir inconsciemment et parfaitement dans le but de faire une croissance et s'entraider dans l'accueil de nos blessures de l'enfance et donc s'ouvrir au monde. Et donc, si j'accueille les différences, je vais vivre avec amour cette notion de complémentarité. On cherche tous à se compléter. Et on le voit en quantique, quand les électrons y tournent autour du noyau, s'il manque d'un électron à un atome, eh bien la structure elle est instable. Donc on est perpétuellement dans une recherche de lien. C'est la base de la vie, cette recherche de lien, à mon sens. Et en toute chose, il y a aussi deux polarités qui existent. Et ça, je le mets très en lien avec notre couple intérieur, avec notre féminin et notre masculin sacré. Donc, on a ce couple intérieur, on a ce féminin et on a ce masculin à travailler à l'intérieur de soi, évidemment. Mais on va aussi chercher notre principe complémentaire énergétique dans nos relations, parce que l'ego, bah, il est profondément incomplet. Et l'ego, bah, c'est bien celui qui nous permet de nous réaliser aujourd'hui dans la matière dense. Donc, c'est, pour moi, à mon sens, c'est complètement OK d'aller chercher son être, entre guillemets, complémentaire sur le plan énergétique. Et puis ensuite, il y a autre chose que je travaille énormément avec les couples et qui me paraît fondamentale, c'est vraiment partir du principe qu'on est toujours aimé, à commencer par nos parents, mais évidemment notre partenaire, mais rarement de la manière dont on l'attend. Et ça, c'est indispensable. Et quand on le comprend, je t'assure, Laurita, il y a des murs qui tombent. On a tous mis des expériences de vie, des croyances, des peurs, des attentes, des émotions en lien avec l'amour. L'amour du ventre qui va être évidemment propre à chacun, et c'est ce qui en fait sa particularité. On aime majoritairement aujourd'hui dans notre société, dans nos systémies familiales, dans le couple, avec le ventre, avec cette notion du conditionnel. Je t'aime si tu fais ça, je t'aime si tu restes, je t'aime si t'es gentil avec moi, si tu pars pas là, si tu respectes mes conditions, si tu vois, je t'aime si. Et en même temps, chaque être humain de cette terre souhaite aimer et être aimé. C'est vraiment un besoin primaire, comme boire et manger. Le docteur Sue Johnson en parle très bien, John Bowlby avec sa théorie de l'attachement en parle très bien, ça vient pas de moi, et j'adhère complètement à cette idée-là. Voilà, les nourrissons ont besoin d'être touchés, d'être regardés avant d'être nourris, et ça c'est vraiment fondamental. Et l'erreur consisterait à croire qu'une fois adulte, les choses en seraient autrement. Non, une fois adulte, c'est toujours pareil, tu as toujours besoin d'aimer et d'être aimé. Donc partant de ces principes-là, en tout cas moi je pars de ces principes-là avec les couples que j'accompagne, et si on a cette conscience qu'on aime instinctivement par le ventre et qu'on est rattrapé de nouveau inconsciemment et instinctivement par le ventre, on va concevoir et admettre l'idée que chacun va aimer à sa façon. Pour certains, aimer, ce sera rester silencieux, ne pas faire de bruit, parce que ils auront appris dans leur développement, durant l'enfance, dans le lien d'attachement qu'ils auront entretenu avec leur figure d'attachement, avec leur mère, que pour aimer, il fallait plutôt être dans le silence. À l'inverse, il y en a d'autres pour qui le silence, ça va être violent, parce que eux, ils auront plutôt appris à faire du bruit. Donc, tu vois, en fait, le cerveau du ventre, quand on met de la conscience dessus, il nous montre nos comportements de survie qui sont intégrés depuis l'enfance et qui nous ont permis de vivre et de maintenir le lien qu'on avait avec nos parents, enfin, du moins nos figures d'attachement, et ensuite avec le reste du monde. Donc ça ne veut pas dire tout accepter, partir du principe que chacun aime, mais à sa manière. Ça veut simplement considérer que d'autres vérités que les nôtres, d'autres façons d'aimer, puissent exister. Ensuite, il y a vraiment cette notion de changer son champ électromagnétique. Et ça, c'est fondamental aussi. Et pour ça, j'utilise aussi notamment la PNL, hein, qui met en corrélation la neurologie, le langage et les programmes. Et c'est vraiment l'idée, grâce à nos pensées, nos croyances, on va changer notre regard qu'on porte sur le monde, sur nous-mêmes et sur notre couple. Et donc en ça, on va changer d'onde de résonance. On ne va pas attirer les mêmes choses à nous-mêmes. Si je cesse de réagir avec mon centre du ventre, donc par résonance avec mon enfant intérieur, et donc je pense notamment aux attaques qu'on peut recevoir par exemple avec des ex ou des personnes qui vont être dans le conflit vis-à-vis de nous, alors il n'y a plus aucune accroche énergétique, il n'y a plus de réaction émotionnelle. S'il n'y a plus d'accroche énergétique, il n'y a plus de réaction émotionnelle. Donc ça revient vraiment à inverser de perception, tu vois. je pense notamment à un couple, tu vois, où l'homme en question, il va constamment demander à sa femme comment elle va, ce qu'elle vit émotionnellement, ce qu'elle éprouve. Et elle va se sentir comblée s'il fonctionne exactement de la manière dont elle aimerait qu'il fonctionne. Et on se rend compte que, elle, finalement, ce qu'elle a vécu, c'est que elle était peut-être avec une personne ou une figure d'attachement, un parent, une mère qui lui apportait peut-être peu d'attention, qui était froide, qui était distante. Et donc, elle a intégré le fait que moins elle montrait d'affection, moins elle posait de questions, moins elle s'intéressait à l'autre, plus elle préservait le lien. Donc, elle a ces ondes de résonance en lien avec ce système de croyances-là. Si elle inverse son champ de perception, si elle va re-questionner au travers de ses vides neurologiques, donc elle sort de ses autoroutes neuronales qui sont ses habitudes, sa manière de concevoir le monde, si elle sort de ça et qu'elle plonge dans ce vide neuro et qu'elle se dit « mais attends, il y a peut-être une autre manière de montrer qu'on puisse être en lien », et bien du coup ça change tout pour l'entité couple. On donne accès à une nouvelle vérité et ça c'est fondamental aussi dans le couple. Et puis ensuite, il y a évidemment le fait de se mettre à la place de l'autre pour développer l'amour, l'empathie, la compassion. Tu veux comprendre ton partenaire. Moi, je fais souvent cet exercice avec les couples en cabinet. Lève-toi et prends sa chaise. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais même énergétiquement, tu te plonges dans le champ quantique de l'autre et ça change tout. Développer une communication consciente, ça, c'est un peu la base aussi du travail qu'on fait en accompagnement. C'est vraiment leur apprendre. Que chaque mot reflète une énergie, une intention sous-jacente. Donc c'est vraiment fondamental de communiquer de manière consciente, non violente. On va apprendre à cultiver un état de compassion, à vraiment travailler sur la phénoménologie, à mettre de côté les interprétations. On va travailler la remise en question, on va apprendre à exprimer nos perceptions en verbalisant nos besoins et nos limites. Et puis on va vérifier constamment si l'autre, si c'est OK. Et puis, les deux dernières choses que je vois, c'est mettre le focus sur ce qui fonctionne, base de la psychologie positive. Tu vois, on parle souvent de ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas, pourquoi c'est des échecs. Non, mais voilà, on va mettre de la lumière, du focus, de l'énergie sur ce qui marche, qu'est-ce qui marche déjà au sein du couple. Et on va travailler par plein d'exercices divers et variés la métaposition pour vraiment développer sa conscience spirituelle et accéder à des informations qui sont en dehors du cerveau pour les mettre au service du couple. Donc vraiment passer d'un ego personnalisé qui va assurer la survie de l'être, qui est fortement influencé par les peurs, par les croyances, par les limitations et qui base nos actions dans le couple sur le contrôle et la méfiance, vers une conscience divine de soi. Donc, une conscience divine de son couple et reconnaître nos besoins, nos limites, nos conflits intérieurs, nos ombres pour mieux les visiter et donc faire de même avec son partenaire. Voilà, un petit peu. J'espère que c'était clair de nouveau.
Très intéressant. Je pense qu'effectivement, il y a tellement de facettes d'un couple. Et puis, il faut aussi se rappeler de pourquoi est-ce qu'on l'a choisi au départ, la personne, parce qu'elle nous a plu. Elle nous a plu pour des raisons bien précises et on a été attiré aussi par ça. Et c'est ça, je te rejoins parfaitement sur qu'est-ce qui fonctionne et pourquoi est-ce qu'on est ensemble, finalement. C'est pas mal de se concentrer là-dessus de temps en temps.
Oui, exactement. C'est vraiment là où va l'attention, là où va le focus, va l'énergie. Et là où va l'énergie, va la vie. Donc si tu portes toute ton attention, et ça, c'est la base du travail en coaching ou en mentoring, en individuel, si tu fixes toute ton attention, si tu envoies toute ton énergie sur ce qui ne fonctionne pas, quantiquement parlant, c'est ce que tu vas attirer à toi. C'est un peu le principe de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est pas je ferme les yeux et j'imagine que d'un seul coup, j'ai une belle maison, beaucoup d'argent et un homme dans ma vie. Non, c'est bien plus profond que ça. La loi de l'attraction, c'est vraiment je vais ressentir dans mon corps, je vais changer de perception et donc je vais changer de champ quantique, je vais changer d'énergie en fait, et de rayonnement. Et du coup, en faisant vibrer en moi intentionnellement, en faisant vibrer le sens que je mets derrière mes désirs et mes intentions et mes souhaits, et bien de fait, c'est ça que je vais attirer à moi, parce que je vais tout mettre en place, et cela inconsciemment. Donc c'est ça qui est extraordinaire, et pour moi, c'est fondamental de fixer sur le couple, et une fois de plus, comme tu le disais très justement, Laurita, et c'est vraiment comme ça que je bosse, et c'est ce que je rappelle à tous les couples que j'accompagne, ou toutes les personnes individuelles que j'accompagne, mais particulièrement pour ce qui est de la relation, c'est que tu vas toujours attirer à toi un partenaire que tu as présélectionné inconsciemment pour venir réouvrir un petit peu les plaies de l'enfance et te donner l'opportunité de les renettoyer. Tu vois, de les renettoyer, de les libérer, d'apporter de l'amour, de la douceur, de transcender et d'accueillir toutes ces notions-là, non pas grâce à l'autre, mais grâce à l'entité couple, grâce au lien, tu vois.
Ouais, totalement d'accord. Et c'est vrai que moi, je le répète tout le temps, mais chaque personne, finalement, est un peu un cadeau et il est là pour t'apprendre quelque chose. Tout le monde sur cette planète peut nous apprendre quelque chose. Ça va forcément peut-être réveiller en nous quelque chose ou vibrer différemment, mais en tout cas, c'est toujours une super opportunité de croissance et ça rejoint parfaitement ce que tu dis, en effet. Merci beaucoup, Maureen, pour ça. Est-ce que tu aurais un ultime conseil ou genre un mantra, un truc qui te guide, toi, dans ta vie de tous les jours à partager ?
Alors moi, le mantra qui me guide tous les jours, c'est « je suis amour ». Et je pense que ça fait du bien à tout le monde de pouvoir connecter à tout ça. Et ensuite, le meilleur des conseils, ce serait juste aimer. Aimer, aimez-vous, aimer l'autre et ne pas avoir peur de s'ouvrir à l'expérience que représente l'entité couple parce qu'on a beaucoup à apprendre et pour ma part, c'est ma plus grande médecine. Voilà.
Ouais, c'est trop beau. J'adore. En plus, vraiment, sur ton compte Insta, c'est vraiment, vraiment axé justement en couple. Tu racontes aussi tes expériences perso et c'est top parce qu'on peut aussi s'identifier. Tu vois, à un moment donné, je pense que tu parlais de relations toxiques et comment faire pour justement s'en sortir parce que toi, tu as réussi à t'en sortir et tout ça. Donc, c'est vraiment très intéressant. Je mettrai évidemment ton lien, encore une fois, dans les notes. Et puis, on peut te booker ou alors est-ce que tu es full? Est-ce que c'est possible de travailler avec toi encore?
Oui, c'est possible de travailler avec moi. Alors, il y a quelques délais d'attente en fonction de ce qu'on choisit, mais oui, il n'y a pas de souci, on peut me contacter.
Formidable. Bon, bah, écoute, je pense que tu auras pas mal de contacts après ce podcast, en tout cas. Merci mille fois, encore une fois, pour ton temps, pour tout, en fait, pour tout. Voilà, merci beaucoup. Merci pour tout.
Merci à toi, vraiment du fond du cœur, Laurita. Merci pour ta confiance, merci pour ton temps, merci pour ce doux moment d'échange. Vraiment, ça me touche beaucoup et voilà, j'ai beaucoup de gratitude que tu me laisses cet espace.
Avec grand plaisir. À très bientôt pour peut-être sur les réseaux sociaux. Who knows?
Carrément.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.